Yacouba Konaté, le malinqué hybride d'Abidjan.
Un sol majeur au Salon international du livre d'Abidjan.
Un sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Si jamais il vous donne un jour sa carte de visite, vous verrez, c'est marqué dessus. Yacouba Konaté, professeur, auteur, domaine, philosophie, critique d'art et études africaines. Bienvenue dans ce week-end en sol majeur en Côte d'Ivoire pour la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan du 15 au 19 mai. L'Institut français accueillant généreusement en sol majeur, on va faire salon demain avec le romancier Gauze, mais aujourd'hui on a planté nos micros dans la très dynamique Rotonde des Arts d'Abidjan. C'est l'un des cocons de notre invité. Ancien commissaire de la Biennale de Dakarte, directeur du marché des arts du spectacle africain, le MASA, Yacouba Konaté est l'une des personnalités hybrides et intellectuelles les plus remuantes du monde de l'art, fourrant son nez là où ça gargouille, là où ça gratouille, capable d'écrire autant sur Alpha Blondie, le Zouglou, le grand sculpteur Christian Lattier, que sur les mouvements patriotes de la Côte d'Ivoire. Bref, il faut vous dire encore que le monsieur s'offre des tête-à-tête musclés avec un Youssouf Tata Cissé comme avec un Théodore Adorno. Qui ça? Allez, qui dedans ça? Vous pensez Yacouba Konaté, bonjour.
Bonjour madame.
C'est Yasmine.
Bonjour Yasmine.
Qu'on aura droit à ce français ivoirien que j'adore dans cette conversation.
Ah oui, j'espère bien, parce que pour moi c'est vraiment la sonorité qui signale qu'on a atterri à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est l'une des créations qui inscrit à la fois la Côte d'Ivoire sur la carte du monde, mais qui montre aussi qu'il y a une réappropriation de cette grosse affaire qu'on appelle la francophonie.
La grosse affaire, voilà. Vous l'appelez comme ça?
Oui, bien entendu.
Alors, puisque vous dites que ce français ivoirien, c'est en somme la carte d'identité de la Côte d'Ivoire, atterrissons complètement sur le tarmac de ce pays. Si vous deviez présenter en français ivoirien un tout petit peu cette rotonde, là où on se trouve, ce serait comment?
En fait, je ne saurais pas.
Comment ça?
Je ne saurais pas parce que je le comprends, je le parle. Je peux être en situation réelle où je comprends, mais dans le contexte où on se trouve, c'est très difficile pour moi. Je pense que...
Parce que je ne le parle pas, c'est ça?
Ah oui, en même temps, c'est une question de registre social. Je veux dire que même nos étudiants que nous avons avec nous, ils ne le parlent pas en amphi avec nous. Mais dès qu'ils sortent de la classe, ils le parlent. Et en plus, les réteurs de cette langue, ce n'est pas les gens de ma génération. Nous, on est plutôt du côté franchouillard. On le comprend, mais ce n'est vraiment pas notre tasse de thé ou de café, je devais dire.
Bon, tant voilà. Pis, ce sera la première petite frustration. On ira fouiner en tout cas à votre bras tout à l'heure dans cette rotonde, mais on va commencer par faire connaissance avec celui qui est né en 53, à 40 km de Boaké, c'est-à-dire à Katshola.
Déconne. Dedans, dehors.
Avant de s'agrandir au dehors, il faut s'affermir au dedans. C'est ce que disait Victor Hugo. Vous êtes né, Yacouba Konaté, dans une Côte d'Ivoire, encore colonie française. Comment s'articuler culturellement le dedans et dehors de votre vie à ce moment-là?
Alors, c'est une période où on est fasciné par des manifestations culturelles dont le Goumbé, qui est une forme culturelle qui a été très bien filmée par Jean Rouch.
Qu'est-ce que c'est le Goumbé?
C'est un groupe de danse, mais qui est basé sur une sorte d'organisation du quartier ou même au niveau de la ville, où les gens se lancent des défis. Et je pense que les premières pratiques de l'uniforme dans nos sociétés modernes remontent à peu près à cette période-là. Donc on se cotise, il y a un président, il y a une reine qui parade lorsqu'il y a des danses qui sortent. Et puis il y a des danseurs qui sont des danseurs vedettes, évidemment. Il y a toujours une très belle chanteuse que tout le monde admire. Donc mon rêve, c'était de devenir président de Goumbé à un moment ou à un autre. Mais maintenant, les choses qui m'ont le plus impressionné, c'est quelqu'un comme Bamoro Traoré, qui est un conteur.
On va en parler. Voilà. Mais dans ce monde qu'on dit encore être la colonie française, est-ce que c'est un monde bipolaire pour vous ? Est-ce que vous le percevez comme ça ?
Pas du tout, parce que la présence française, je vais dire les Français, les Blancs que moi j'ai vus, dans toute la ville, il y en avait 5-6. J'ai le souvenir du dernier commandant de Serbe qui d'ailleurs m'a fait un cadeau que je n'oublierai jamais. Il m'a offert mon premier pain de pisse. Je l'ai retrouvé dans une chaîne avion. Peut-être qu'il a dû remarquer que j'avais un peu faim ou je ne sais pas ce que j'étais venu faire. Mais toujours est-il qu'il a décidé de m'offrir cette friandise dont je reste toujours très amoureux. Donc c'est une saveur que je n'oublierai jamais. Et il y avait le commandant de brigade qui était aussi un Français blanc. Il y avait aussi quelques commerçants qui avaient pris le parti de s'intégrer aux populations, qui étaient parfois des transporteurs. Souvent, ils ont pris, ces Français qui sont restés ont pris des femmes sur place et nous ont fait les enfants qui sont aujourd'hui nos camarades.
Alors, puisqu'on essaye de voir comment s'articuler un petit peu le dedans-dehors de votre enfance, Yacouba Konaté, qu'est-ce qu'on peut dire dedans, si on s'introduit dedans votre maison, qu'est-ce qu'on peut dire de vos parents ? Est-ce qu'ils faisaient partie d'une élite ou pas du tout ?
Mon père était quand même chef. C'était un Dougoutri, comme on disait. Et j'ai eu le privilège, chaque fois qu'il y avait des fêtes, d'être réveillé par le son du tambour des selles. On venait nous chanter ses louanges parce que je suis un Konaté. Le Konaté, vous savez, le père de Soundiata était Konaté.
Soundiata Keïta ?
Oui, c'est ça. Et Soundiata, c'est un Konaté. Mais les Keïta se moquent de nous en disant que quand un Konaté devient puissant, il devient Keïta. Mais je pense que Soundiata est le premier Keïta de toute l'histoire du Mading, mais c'est un Konaté et les hymnes qu'on chante à la gloire de Soundiata sont en fait des hymnes chantés pour les Konaté. Et donc, évidemment, je ne m'en prévaux pas à haute mesure. Je sais que les Konaté et les Traoré se battaient régulièrement avant que les Konaté gagnent et installent cet empire au XIIIe siècle, mais tous les Konaté n'étaient pas des parents, des descendants directs de Soundiata. Il faut imaginer qu'il y avait 1000 Konaté, 1000 familles, dont certains vivaient dans l'indigence et d'autres, si j'ose dire, dans l'or. Donc c'est ce que je peux dire.
Ce qu'on ressent, c'est des racines africaines, on va dire, extrêmement puissantes, extrêmement profondes, et pourtant on est dans cette fin de temps colonial français. Vous avez 7 ans au moment de l'indépendance, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a fallu négocier quelque chose identitairement, se réapproprier quelque chose de la culture africaine ? On n'a pas l'impression en vous écoutant.
En fait, moi, mon privilège, ma chance, c'est que j'ai été à l'école très tôt, 4-5 ans, tout simplement parce que mon père était en charge de remplir l'école qui manquait de gamins. Et en ce moment, il a dû prendre son fils en premier pour bien expliquer aux autres qu'il ne les invitait pas à une mauvaise chose. Et on a fait la cour des maisons, des familles voisines pour dire, il expliquait aux gens, le commandant demande des enfants, donnez-moi les vôtres, voici le mien, il n'a pas l'âge, mais on va y aller. Par exemple, les soirées de compte, nous on les a connues. C'est-à-dire que tous les soirs, et surtout quand il y avait clair de lune, il n'y avait pas de la lumière dans les quartiers, on se regroupait, on se racontait les contes.
Est-ce qu'on peut dire le nom de cette installation qui est derrière vous, Yacouba Konaté, dans cette rotonde des arts ?
Alors ça, c'est une installation d'Arafat, qui est un jeune espagnol que j'ai reçu ici il y a une dizaine d'années. L'installation s'appelle « Les oranges mortes ». Alors donc, il était très préoccupé de la situation des orangers dans la région du sud de l'Espagne où il y a beaucoup de migrants noirs qui travaillent souvent dans ces... Et il a conçu de créer une sorte de dialectique, c'est-à-dire de mettre les racines en haut et de mettre les branches en bas. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que nous sommes dans un centre d'art, nous vendons des œuvres, mais tout le bénéfice des œuvres, on les réinvestit. Et Rafa, le premier vernissage n'avait pas bien marché parce que c'était journée de Coupe du Monde de foot et on est mal tombé sur un jour où la Côte d'Ivoire jouait. Les gens ont préféré le foot à notre exposition. On a fait un deuxième.
Vous le comprenez, voilà, malgré vous, vous le comprenez quand même.
Absolument. Bon,
alors voilà. C'était juste pour donner l'image aussi
absolument.
De vous avec un clair de lune. rétrospectivement. Absolument. Et cet oranger qui plane oranger, autour de, au-dessus de vous. Absolument. Et c'est juste pour se rapprocher justement de cette enfance première qui a été la vôtre dans cette Côte d'Ivoire. Et on va vous suivre, vous qui êtes une sorte de voyageur culturel qui naviguez entre plusieurs rives hein, quand même et plusieurs cultures. Vous venez de sortir un livre sur le conteur Bamoro Traoré. Et vous allez nous dire, avec ce conte « La chamelle et le petit chameau » dit par lui, que vous nous avez ramené, ce qui entre chant, joute et incantation se raconte et comment ça se raconte.
Alors c'est l'histoire d'une chamelle qui meurt de fatigue et le propriétaire est complètement effondré parce qu'ils ont fait un long chemin, lui ne sait pas comment retrouver le chemin. Mais c'est la chamelle qui était en quelque sorte son guide. Alors il pleurniche lorsque une dame qui était à côté lui donne un conseil, il dit ne t'en fais pas, autant la mère chamelle connaît le chemin, autant la fille saura nous ramener à la maison. Question de dire qu'en fait les femmes transmettent en premier lieu à leurs filles tout leur savoir-faire. Lorsque le chamelier commence à pleurer, la femme lui dit « Non, un homme, ça ne pleure pas. C'est vraiment une affaire de dame que de pleurnicher. Laisse, on va gérer la situation. » Alors ce conte, pour moi, et au-delà, Bamoro, c'est vraiment une parole très forte, une parole de souffle. C'est vraiment une parole qui récapitule ce qu'on peut appeler la mémoire des récits, la mémoire des épopées, mais aussi, j'allais dire, la veine poétique de tout cet art oratoire qui se perd aujourd'hui et que nous sommes obligés, nous, de restituer dans des textes pour lesquels on a de gros problèmes de traduction, parce que certains amis m'ont dit, Bachir Sulaiman, par exemple, m'a dit, ah non, il faut le publier en Djoula également, mais bon, les lecteurs de Djoula, aujourd'hui, on en compte très peu, mais j'ai la version Djoula, parce que j'ai fait transcrire ses contes. J'ai fait la rencontre de Bamoro dans mon enfance, mais je le voyais de loin.
Alors, dans une cour commune, là, parce qu'on imagine qu'il y a un cercle, les villageois tout autour, et qu'il y a une interaction comme ça entre lui, conteur, et les villageois.
Et les villageois.
Alors, quelle est la fonction véritablement sociale, sociologique presque, de ce genre de conte?
La première fonction, c'est la transmission de la mémoire. Vraiment donner un récit à tout le monde, parce que je pense que les gens qui n'ont pas de récit sont paumés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce récit de Kafka où il rencontre un enfant qui pleurniche une poupée, qui pleurniche après une poupée qu'il a perdue. Et puis Kafka se met en devoir tous les jours de lui dire « Ne t'en fais pas, je vais retrouver la poupée et je viendrai te donner de ses nouvelles. » Et tous les jours, il vient raconter une histoire à cette gamine qui ne pleure plus et qui attend des nouvelles fictives. À partir du moment où elle a un récit, elle recommence à vivre et puis elle oublie doucement sa douleur. Donc donner un récit, pour moi, ça compte beaucoup et ça compte aussi pour toutes les personnes. Mais l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'étude de Bamoro, c'est qu'il nous donne les éléments de ce qu'était l'économie du spectacle dans les années 50 à 60. Il explique par exemple qu'il enregistrait ses disques chez madame, juste la rue d'à côté, la rue d'en face, chez Radio Afrique, chez une dame, une Française qui s'appelait Madame Dubois, qui enregistrait les galettes. On lui donnait sa part à un prix raisonnable et lui faisait ses campagnes et puis il vendait les disques au fur et à mesure qu'il faisait ses tournées. Et il était accueilli vraiment par les familles, par les notables des régions. Et puis on l'appelait en particulier pour adoucir aussi les mœurs lors des mariages parfois obligés. C'était assez courant, je pense que ça a diminué, mais ça existe toujours.
Alors en tout cas, j'invite les auditeurs dans Sol majeur à vous lire Yacouba Konaté avec ce livre qui circule dans ceci-là, le Salon international du livre d'Abidjan. Votre livre s'appelle « Voilà pourquoi, trois petits points, conte de Bamoro Traoré de Kong ».
B comme boîte à outils.
Toujours dans cette rotonde des arts ici à Abidjan, Yacouba Konaté, que ce soit, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, pour le bricolage ou pour la pensée, il faut toujours une petite boîte à outils. Et dans la vôtre de boîte à outils, dans cette boîte à outils de chercheur, il y a pas mal de noms, pas mal de références. Bien sûr, il y a le maître de la tradition orale, Amadou Ampateba. Mais il y a eu aussi un spécialiste de la littérature orale du Mali, chercheur au CNRS, Monsieur Youssouf Tata Cissé, que vous avez déjà cité tout à l'heure, autour duquel vous avez organisé en 2010 un programme de conférences intitulé « Escales africaines ». Et Youssouf Tata Cissé s'est éteint malheureusement avant d'arriver à Abidjan, mais il a eu le temps, comme on va l'entendre, de vous enseigner deux, trois choses, notamment il a eu le temps de vous initier au Manan Ngolo. Qu'est-ce que c'est le Manan Ngolo ?
Le Manan Ngolo, c'est une sorte d'échelle qui préfigure un peu la conception de l'homme. C'est une image, en fait, de la maternité, de la genèse et de l'enfantement, mais qui s'enseigne seulement aux initiés. Et Youssouf, il ne comprenait pas que je ne comprenne pas. Et puis, en plus, tout à l'heure, je vous disais que tout est dans les chants, tout est dans les jeux. C'est une figure qu'on utilise également dans les jeux d'enfants. C'est-à-dire on fait do au Manan Ngolo qui est dessiné sur le sol et puis on jette par-dessus bord un objet qui tombe dans l'une des cases et selon la position de l'objet qui est tombé, on peut énoncer quelque chose sur votre avenir, etc. Donc, alors, mais ça s'inscrit dans un vaste programme de recherche des signes parce que vous savez que l'Afrique a été réputée et affublée de toute une série de manques. Manque d'État, manque de démocratie, manque de grande cuisine et manque d'écriture. Et des chercheurs comme Youssouf Tata Cissé sont intéressants parce qu'ils aident à comprendre que l'écriture, ce n'est pas seulement l'inscription sur la page, le papier. Je pense qu'on trouve ça aussi chez Jacques Derrida. Mais que toute inscription sur une surface qui peut être plane ou curve, dans le sol ou sur les murs, toute inscription est une forme d'écriture.
Alors, j'aimerais que pour un sol majeur, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous transmettre ce petit paquet cadeau, qu'on entende votre voix, Yacouba Konaté. Vous êtes le disciple de cette initiation au Manan Ngolo avec Youssouf Tata Cissé.
On commence par tracer les trois sillons verticaux. Et à chaque angle, si c'est par terre, avec le sable, tu fais trois petits tas de sable. Et pour tester l'individu, on dit Kenin Bola Donna, Kenin Kedjou Bola Donna, Kevrema Don, Kenin Kelenko. Alors celui qui est testé a le dos tourné au dessin. On indique le premier truc, d'ailleurs il y a des bâtonnets là-dedans. Il va falloir Niwa, Oho, Soumangolo. Soumangolo étant le dieu de l'humidité. Soumaya. Et tu traces un trait. C'est ce que les ethnologues n'ont pas compris.
Parce qu'il y a cette case qui est déjà prise.
Voilà. Et tu reviens en arrière. Tieni bola donna, tieni kedjou bola donna, kevrema don kenin kelengo. Niwa ayis mangulu. Niwa oho mangulu. Parce que ça c'est le principe de la géomancie. Ni bi géomancie que 1, le 2, il reste 1. Ici, il reste 2. Voilà le signe de la personne. C'est un sexe pour procréer, deux jambes pour découvrir le monde, deux bras pour travailler et un cerveau pour créer. Alors, tu reviens encore en arrière. Tieni Mbola Donna, Niwa, il a été déjà désigné. Aïs Mouro, Niwa, Aïs Mouro, Niwa, Aïs Mouro, Niwa, Batre Mouro.
C'est vraiment savoureux d'écouter fredonner comme ça Youssouf Tata Cissé pour RFI et en sol majeur ici dans cette rotonde des arts avec vous Yacouba Konaté. On se dit quand on l'écoute, vous expliquez cet art, cette technique de divination, le Manan Ngolo comme ça, que l'homme finalement c'est toujours, est toujours passé par le jeu pour se raconter.
Absolument, et pour lui, le fondement de la culture Mandingo Bambara passe par cette forme d'instruction, de transmission, et il aimait à dire que tout est dans les chansons. Et c'est pour cela d'ailleurs que moi, de plus en plus, je suis très très regardant sur la teneur des chansons. Je mets beaucoup de temps à traduire les chansons. Je l'ai fait pour Alpha Blondy. Oui. Je le fais aussi pour Salif Keïta, qui est également un fabuleux poète. Et dans la texture de ces textes, je pense qu'il n'y a pas seulement que de la poésie, il y a aussi une vision du monde. Et pour moi, c'est important aussi de s'adresser et d'être à l'école des gens comme Youssouf Tata Cissé, parce que moi, mon problème à l'intérieur du champ de la philosophie, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique a été accablée de beaucoup de manques. À un certain moment, on nous a dit aussi « votre pensée est collective », donc il n'y a pas de pensée collective en philosophie. Donc ce que j'essaie de faire aussi, c'est de donner un statut subjectif, singulier, à quelques personnes qui pour moi sont des penseurs, qui peuvent valablement revendiquer le statut de philosophe, mais en tout cas je les revendique pour eux. C'est un peu ça mon projet.
Vous délimitez une cartographie philosophique du monde.
Complètement.
Oui, d'accord.
Et en plus, moi ça me permet aussi de me réapproprier, de me rapprocher de cette forme de vaste culture qui a été en quelque sorte tendanciellement enterrée par le christianisme, par l'islam, parce que les noms de Dieu seulement que Youssouf Tata Cissé m'a enseigné en Bambara, il y en a 266.
Vous les connaissez, vos 266?
Ah oui, je ne peux pas les réciter ici, mais je les ai bien notés, il me les a donnés un à un. Et puis bon, il y en a pas mal qui sont aussi dans ses écrits, hein. Il a beaucoup publié, même s'il n'était pas content du spectre de diffusion de ses œuvres, mais il a beaucoup écrit, il a beaucoup enregistré également, il a donné beaucoup de conférences, mais malheureusement très peu en Afrique.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre donc Youssouf Tata Cissé d'un côté, ethnologue malien, et Théodore Adorno, sociologue, philosophe allemand, qui est un autre de vos maîtres?
Le lien, je le fais, je l'assume, mais c'est aussi, je l'assume aussi par une volonté de rupture avec Adorno, que j'ai pratiqué avec beaucoup de bonheur et que je pratique notamment dans la critique d'art. Parce que ce qu'il dit du matériau, ce qu'il dit de la forme, pour moi, c'est des paroles qui sont de pure merveille.
C'est-à-dire, en résumé...
Par exemple, il t'a dit, la forme, c'est du contenu social sédimenté.
On a combien de temps, là, pour réfléchir?
Ah, mais ça veut dire qu'une forme, ce n'est pas juste un ballon comme ça, mais à l'intérieur, la forme reforme, prend la forme, c'est-à-dire configure un contenu social. Donc derrière toute forme, et surtout derrière toute nouvelle éruption de forme, il y a un contenu social.
Et comment vous le projetez ça sur, par exemple, le domaine de l'art africain?
Je donnerai l'exemple de l'analyse que je fais de l'œuvre d'Abloye Konaté au Mali ou encore de Romuald Azoumé au Bénin. Romuald, c'est quelqu'un qui investit le bidon, vraiment le bidon au sens du plastique, comme élément principal de sa création. Donc il donne forme au bidon. Mais le bidon, dans la société du Bénin, ce n'est pas un objet quelconque. C'est vraiment le paradigme principal de l'économie de survie et de cette économie qui est un peu dans le dos, un appendice du Nigeria, où tu as tout le trafic de pétrole illicite qui inonde le marché. Et il étudie le bidon, il se rend compte qu'il y a des catégories de bidons, il y a des bidons qui ont plus de valence que d'autres, y compris sur le marché libre. Et à partir de ce moment, il décide d'en faire le concept général de son art. Donc ce choix-là, à partir du moment où il est fait, ça renvoie à toute l'économie sociale du Bénin qu'il faut récapituler lorsque on commence à aborder cette problématique-là. De la même manière, tout à l'heure, on parlait des Français populaires ivoiriens. Je vous parlais du nouveau français. Je vous ai expliqué que le premier français dit de Dago, il relevait des gens qui n'avaient pas la maîtrise du français, qui parlaient le français que Amadou Ampateba appelle le Foforofi Naswa. C'est le français que parlaient nos pères qui ne comprenaient pas le français, mais qui savait que c'était bien de faire semblant de le parler. C'était un français de tirailleurs. Hein. D'ailleurs, Kourouma décrit aussi très bien comment ce français nous est revenu après la guerre, avec les godasses, avec les brodequins, avec les tambouilles, tout le matériel que les soldats ramènent. Donc ce français-là, sa forme, le contenu social qu'il sédimente, c'est justement des gens qui sont en incapacité de parler le français formel, standard et qui, à leur corps défendant, sont obligés de bricoler, de faire semblant de comprendre, et finalement, ils arrivent comme ça à créer tout un réseau de communication, des signes qui fonctionnent pour eux.
Passionnant. Vous avez fait des études de philo, et aujourd'hui, Yacouba Konaté, vous êtes professeur titulaire de philosophie à l'université d'Abidjan, Cocody. Et en même temps, on sent bien, on le voit bien ici, le monde de l'art a eu raison de vous. Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ?
Pour moi, les deux se conjuguent parce que j'ai toujours été, disons, je reste préoccupé par la question de l'investissement de la pensée. Je pense qu'une pensée qui se nourrit seulement de pensée finit par tourner à vide. Et je distingue dans le champ de la pensée en philosophie ce que je dédaigne un peu rapidement sous le label de philosophieur, c'est-à-dire ceux qui peuvent te citer Marx, Platon, Hegel par cœur, mais qui n'ont pas le souci, ils en sont capables, mais ils n'en ont pas le souci, de s'approprier une pensée de Marx pour essayer de réinvestir la réalité, leur contexte, en l'occurrence le contexte ivoirien, et de le faire parler, de lui faire dire un peu, j'allais dire, sa réalité. Et donc pour moi, c'est vraiment l'art, c'est un autre champ d'application de ce que j'appelle la philosophie.
Alors en fait, votre casquette de militant culturel, vous vous présentez un peu comme ça, Yacouba, peut-être vous a fait travailler la notion de l'estime de soi, ou peut-être la notion de la connaissance de soi. Et il a fallu en passer certainement par la voie des vainqueurs et des vaincus. Pour en sol majeur, Nicolas Sarkozy et Joseph Kizerbo, qui aura le dernier mot.
Comme vous le savez, Hegel, le grand philosophe allemand,
l'homme africain,
avait refusé,
n'est pas assez entré dans l'histoire,
aux Africains de disposer d'une histoire.
Le paysan africain ne connaît que l'éternel recommencement du temps.
Non seulement ils n'ont pas d'histoire, disait-il, mais ils ne peuvent pas en avoir.
Dans cet imaginaire, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine,
et il assimilait,
ni pour l'idée,
la situation des Africains
de progrès
à la nuit noire,
dans cet univers,
à la situation de quelqu'un,
l'homme,
qui évolue
jamais
dans l'obscurité de la nuit noire,
s'élance vers l'avenir.
Eh bien, nous avons relevé ce défi.
Le problème de l'Afrique, c'est que trop souvent, elle juge le présent.
Et nous avons démontré que nous étions non seulement dans l'histoire,
par rapport à une pureté des origines,
mais que l'Afrique était le berceau de toute l'histoire de l'humanité.
Totalement imaginaire.
C'était difficile au début à admettre.
Et que personne,
que le paradis terrestre se trouvait en Afrique,
ne peut espérer ressusciter.
Qu'Adam et Ève étaient africains.
On est en 2019 dans votre rotonde des arts à Abidjan, Yacouba Konaté. Évidemment, il y a mille choses à dire dans ce croisement un peu scabreux entre un Sarkozy et un Kizerbo. Mais tout de même, vous qui êtes né du côté des vaincus, est-ce que vous pensez que vous travaillez à vous sentir profondément à égalité avec les vainqueurs aujourd'hui ?
Oui, j'y travaille, mais c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Je vous donnerai la dernière expérience que j'ai vécue seulement hier. Je travaille sur le prochain Massa et je vais recevoir ici des troupes qui viennent d'un peu partout. Et puis, je suis en train de signer un contrat avec un groupe dont je ne dirai pas le nom. Et puis,
bien mystérieux,
groupe,
hein.
Ouais, non, mais bon, parce qu'on ne cite pas ses contemporains.
Ah bon?
Dans ce type de cas. Alors, donc, évidemment, on paye toujours la moitié du cachet à l'avance. Ça, on le fait et il reçoit ça en euros. Mais quand il arrive et qu'il joue ici, il veut que je le paye en euros. Mais quand moi, je vais en France pour faire des conférences ou des choses, on ne me paye pas en franc CFA. Je dois payer en monnaie locale. Alors, donc, c'est le genre de problème qu'on traverse. Et souvent, la sagesse t'apprend juste à expliquer ton point de vue, à lui faire la remarque en disant, en France, on me paye en euros, mais puisque je tiens à avoir ce groupe, je serai obligé de le payer en euros, y compris à Abidjan ici. Donc ça veut dire que la posture du vaincu, c'est une posture inconfortable. Il faut la vivre sans arrogance, mais il faut la vivre avec beaucoup de vigilance. Et des gens, des personnalités comme Kizerbo, ont réfléchi à la question, sous plusieurs rapports d'ailleurs. Moi, j'ai retenu trois grosses phrases de Kizerbo qui pour moi suffisent pour faire toutes les conférences qu'on me demande sur lui.
Allons-y.
La première consiste à dire que « quand un prince romain prend son fils, il le tue », je n'ai pas la phrase dans ma tête, on met ça au compte du patriotisme. Quand Samori en fait autant, on le traite de roi sanguinaire et sauvage. L'autre expression qui me revient, qui pour moi m'a beaucoup aidé aussi, il explique que, ça c'est dans son Histoire générale de l'Afrique, que le vieillard, il emploie le terme de vieillard, un peu comme Amadou Ampateba, qui quitte son village pour la ville, ne parcourt pas seulement une distance géographique, mais aussi une distance historique. C'est-à-dire que...
C'est beau ça.
Vraiment, du tout au tout, tu passes du village à la ville, tu as changé de temporalité. Et l'autre phrase qui pour moi est également intéressante, il a dit lors d'une des éditions du FESPACO, il dit « on se plaint de la fuite des cerveaux qui frappe l'Afrique chaque jour, que des gens vont s'installer en France ». Mais personne ne dit rien de la fuite immense des cerveaux, des gros robinets qui s'ouvrent chaque fois que nos télévisions diffusent des images occidentales, indiennes, etc. Et ça aussi, c'est la fuite des cerveaux.
Aujourd'hui, les artistes africains, on va aller voir ça tout à l'heure, là, mais les artistes africains, j'ai l'impression qu'ils n'en sont plus vraiment au fameux « I'm black, I'm proud ». C'est vous qui le dites d'ailleurs, Yacouba Konaté. Mmh. Donc ils en sont où aujourd'hui ?
Ils en sont à des recherches de singularité, ils en sont à des recherches d'eux-mêmes. Le seul problème, c'est que parfois, ils croient, ils s'imaginent qu'on peut se retrouver tout seul, sans faire fond sur le travail des aînés. C'est pour cela que je pense que l'urgence...
On ne capitalise plus.
Absolument, ils ne capitalisent plus, ils ne se donnent pas des maîtres, n'ont pas des mentors derrière eux qui les poussent à avancer. Et je pense que l'un des problèmes que nous devons résoudre, c'est que dans chaque discipline, nous devons avoir des aînés qui nous poussent dans le dos. Mais ça suppose de connaître, d'avoir une grammaire de tout ce que ces gens-là, ces dévanciers ont fait. Et c'est valable aussi pour la connaissance des arts graphiques, de la peinture. Prenez par exemple la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est une terre de sculpture. On a au moins 7 grosses écoles de sculpture. C'est-à-dire tu peux t'exprimer selon un style Lacan, selon un style Senoufo, selon un style Lobby, BT, etc. Tout ça, c'est des grammaires. C'est vraiment des manières de parler qui sont des langues. Dans ce sens, c'est des langages plastiques. Donc, la maîtrise de ces langues, dans l'intériorité, dans leur caractère systématique, aide à trouver une tournure mentale. Ça met en place des prérequis qui te permettent après de mieux penser.
Vous savez ce qu'on va faire, professeur Konaté ? Parce que vous aviez votre toque de professeur là, il y a deux secondes. On va aller se dégourdir un peu la pensée dans deux minutes. Vous allez nous montrer quelques-unes des œuvres de cette rotonde des arts qui sont ici autour de nous. Mais avant, le goûteur de musique que vous êtes va nous dire pourquoi Lady de Fela, qui se retrouve sur le pick-up dans Sol majeur.
Ah, Fela, c'est une grosse figure. Et moi, je le rencontre vraiment au moment où je suis étudiant. C'est la première fois que je prends l'avion, grâce à la politique de Félix Houphouët-Boigny, qui avait une sorte d'ouverture. Je ne suis pas en train de dire, comme c'est très tendance aujourd'hui, que c'était tout beau, tout joli avec lui. Hein. Mais toujours est-il.
Il faudra faire
que...
l'inventaire un jour. Hein.
Absolument. Mmh. Toujours est-il que sous Houphouët-Boigny, les étudiants, comme moi, pouvaient passer des vacances au Nigeria. On a pris l'avion la première fois et on nous loge comme ça au pif. Et moi, l'hôtel où on me met. C'est Fela qui joue là le soir même. Donc j'ai...
Vous n'avez pas dû beaucoup dormir.
Mais voilà. Et j'ai droit au spectacle gratuitement. Et Fela, c'est important pour moi aussi parce que ce voyage m'a permis de découvrir que la Côte d'Ivoire est un grand pays, mais qu'il y a des pays aussi grands que la Côte d'Ivoire qui sont voisins, qui parfois même te donnent l'impression que tu es un peu plus petit. If you call a woman, African woman, no go green. She go say, I be lady yo. Huh, 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 huh.
Art Lady. I never tell you. She go on take cigar before anybody. She go on make you open door for him. She go on make him man wash big for him for kitchen. She wants salute man, she go sit down for sheer. She wants salute man, she go sit down for sheer. She won't sit down for table before anybody. She won't sit down for table before anybody. She won't take piece of meat before anybody. She won't take piece of meat before anybody. Call 'em for dance, she go dance, lady dance. Call 'em for dance, she go dance, lady dance. African woman go dance, she go dance the fire dance.
Qui n'a pas dansé, aimé, rêvé de tout révolutionner sur Lady de Fella? Ça se passe en sol majeur et en Côte d'Ivoire dans le cadre du SILA, Salon International du Livre d'Abidjan sur RFI, avec Yacouba Konaté, un aristo de la pensée, un peu malin, un peu malinqué. J'aimerais bien que vous nous offriez pour en sol majeur une petite vibration alors dans cette rotonde des arts. On y va pour la balade?
Oui, avec plaisir.
Sol majeur en immersion.
Voilà, alors on est au premier étage de cette rotonde des arts.
Alors ici, ça fonctionne plutôt comme un musée parce que malheureusement encore, la Côte d'Ivoire n'a toujours pas un musée d'art contemporain pour essayer de régler un peu cette question à minima. Nous avons pris le parti de réunir ici un échantillon de la création moderne et contemporaine en Côte d'Ivoire depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors ici, nous sommes devant une sculpture de Christian Lattier, qui est un peu le maître à penser, vraiment la figure emblématique de l'art moderne en Côte d'Ivoire.
Alors comment on peut la décrire, cette sculpture?
Ça s'appelle le bélier. Le bélier, comme vous savez, c'était un peu le paradigme, le symbole du président Félix Houphouët-Boigny. Mmh. Et vous voyez le bélier, il est ici à l'horizontale.
Il est en rotin?
La matière qu'il utilise, c'est le fil de fer et la toile de jute. Mais c'est une combinaison un peu savante parce que c'est des œuvres. Ça, c'est une œuvre de 1969 et celle-là est de 54, le Christ.
Le Christ, une seconde, parce que c'est quand même à voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce Christ? C'est aussi Christian Lattier?
Oui, c'est aussi Christian Lattier. Toutes ces sculptures relèvent de Christian Lattier et nous les avons en dépôt ici parce que nous faisons un travail de conservation pour les familles des artistes disparus. Et à côté, nous montrons des artistes qui comptent pour la construction générale de cette histoire.
Que dire de ce Christ?
Ce Christ, il est considéré un peu comme un porte-bonheur parce que ça a eu un prix en France. Et chaque fois qu'il mettait dans une exposition, dans un concours, des objets qui renvoyaient au Christ, il remportait toujours quelque chose comme un prix.
Voilà, c'est un Christ un peu iconoclaste. Comment vous le décririez?
Mais l'intérêt ici, c'est que c'est le matériau qu'il utilise, qui est complètement effilé. C'est un Christ qui est pratiquement sans corps. Mais on le sent dans la posture parce que ça veut dire finalement que tout peut se résumer dans la posture. Donc c'est cette position minimaliste là qui me donne une très grande force à la sculpture.
On dirait presque un trait de caricaturiste, comme ça, en trois traits.
Complètement. C'était une caricature, mais réussie, et puis avec quand même cette couronne d'épines qui arrive à nous situer et qui vient un peu en construction rythmique avec les palmes des deux mains et puis également les palmes des pieds. À mon avis, on n'a pas beaucoup parlé de rythme dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, mais je pense que c'est l'un des éléments essentiels de la vie, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et je pense que dans la construction des œuvres, c'est important de savoir produire du rythme, de savoir les orchestrer et arriver à les maîtriser dans une composition équilibrée.
Donc, si on vient dans cette rotonde des arts, ne pas passer à côté du travail du sculpteur Christian Latier. Une autre œuvre pour la route?
Alors, je montrerai l'œuvre de James Kokobi. Je crois beaucoup en la sculpture parce que je pense que historiquement, c'est la technique qui a le premier négocié pour l'ensemble de l'Afrique une sorte d'excellence, c'est-à-dire avant que la musique ne devienne la musique du monde. Les premières manifestations par lesquelles le nègre s'est présenté sous les meilleurs jours sur les théâtres de la pensée occidentale ou la scène occidentale tout court, c'était les sculptures. Les
sculptures. Immense sculpture, 1,90 m sur 80, c'est du bois brûlé.
Absolument.
Et c'est donc une figure, c'est le corps d'un nègre éventré.
C'est de James Kokobi, qui est un sculpteur ivoirien qui vit maintenant moitié ici, moitié en Allemagne. C'est une représentation de Darfour, au moment où la guerre au Sud-Soudan devenait très critique. Il a vu une scène d'un enfant qui pleura à côté de son père et il en a perdu le sommeil. Et dans une sorte d'effusion, il s'est mis à penser, à dessiner. Et le lendemain, il s'est levé, il est parti dans la forêt parce que là-bas, il a l'autorisation de travailler avec les bois de chêne qui sont morts. Et puis, il a fait cette composition que j'ai eu la chance de montrer à la Biennale de Dakar lorsque j'en étais le commissaire général en 2006 et qui, par après, est venu ici lorsqu'on ouvrait la Rotonde des Arts. Ça a été l'une des œuvres qui est venue relever le niveau de cette exposition et depuis lors, elle est restée. C'est une propriété de notre fondation.
Aimer et défendre l'art comme vous le faites, Yacouba Konaté, est-ce que c'est souhaiter faire d'une certaine manière la révolution?
Pas vraiment. Moi, c'est un répit. Hein. C'est vraiment quand on arrive ici et que on discute d'art plutôt que de discuter toute la semaine de politique ou d'administration, ça repose.
L'art ne bouscule pas le monde?
Ça bouscule, mais moi j'ai beaucoup communiqué sur la question de l'art peut-il changer le monde, mais ma conclusion c'est que c'est pas évident que l'art change le monde, mais c'est évident que le monde change l'art et les artistes. Mais je pense qu'il y a une fonction fondamentale de l'artiste qui est que c'est un homme de partage. Il veut partager ses émotions. Moi, je dis aussi que c'est quelqu'un à qui on prête ses rêves. Puis nous les retourne avec un bonus parfois brillant, mais parfois aussi un bonus qui fait qu'on rentre dans des cauchemars. Donc je pense que fondamentalement, les artistes sont des relais essentiels de la vie en société. Il y en a qui prétendent être des porteurs de parole, d'être la voix des sans-voix, c'est leur droit. Mais moi je pense que le message essentiel que pourrait porter un artiste, c'est vraiment dans la forme de son œuvre, indépendamment de tous les discours qu'il peut tenir sur lui-même, qu'on écoute avec respect. Mais je pense que ce discours ne vaut rien face à la texture propre des œuvres. Et c'est pour cela que ce rapport aux objets, ce rapport au savoir-faire, pour moi, c'est irremplaçable.
Paix comme patriotisme.
Le mot patriotisme, me dites-vous à l'oreille, Yacouba Konaté, c'est un mot qui nous a fait pleurer. Donc, une dernière question. Je vous ai présenté pour En Sol Majeur comme une personnalité intellectuelle un peu hybride. Comment est-ce que vous, le Konaté, vous travaillez cette question de l'identité? Est-ce que vous faites les choses à 80% blanc-ment, de façon blanc-ment, comme on dit joliment en français ivoirien? Ou voilà, comment la sauce?
Il se trouve que moi j'ai travaillé, ma deuxième thèse c'est sur la question de l'identité, notamment avec Adorno qui ne croit pas en l'identité et qui croit que toute identité est aussi non identique. Je pense que c'est dans notre capacité à prendre des distances vis-à-vis des définitions que les gens ont préétablies de nous que nous nous créons nous-mêmes. Maintenant,
traduction pour vous alors.
Ça veut dire concrètement qu'on peut devenir ce qu'on est en apprenant à être de meilleurs Ivoiriens, comme moi j'apprends par exemple à être un meilleur Mandé en étudiant les traditions, les mythes de ce terroir. Mais on peut également apprendre à conjurer tous ces nœuds de haine qu'il y a en nous. Le plus important, c'est de reconnaître nos différences, mais aussi de reconnaître les points où nous avons vraiment des différences, c'est-à-dire des divergences qui parfois sont irréductibles. Donc,
qui nous rassemble prioritairement sur ce qui nous sépare.
Voilà, mais il faut aussi savoir, il faut aussi mettre en exergue, mettre en évidence ce qui nous sépare. Si nous avons des divergences, il faut que nous les fixons, que nous ne nous les cachons pas, et qu'à partir justement de ces différends, nous voyons qu'est-ce qui est possible, étant entendu qu'on sait qu'on ne s'entendra pas sur ceci et sur cela. Donc ça crée un espace qui est un peu limité, mais qui a l'avantage de créer une sorte de zone libre où on peut se rencontrer. Donc moi je crois qu'il faut considérer que l'identité, ça a été un moment de revendication qui a permis de régler certains problèmes théoriques. Mais dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, il faut savoir que c'est comme une arme. Et quand on croit trop aux logiques identitaires, en ce moment, on se détruit et on détruit notre capacité à rencontrer l'autre.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Yacouba Konaté pour cette belle visite en sol majeur ici à la Rotonde des Arts. En sol majeur en Côte d'Ivoire avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Vous êtes toujours filmé, hein? C'est incroyable. Si, vous êtes filmée. Caroline Filliette, Juliette Bro, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain, toujours à Abidjan, dans le cadre du SILA, avec le romancier Gauze. À demain.
Merci bien.
En sol majeur, au SILA.